le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant. Ce matin, je vous propose un temps de méditation avec la pasteure Caroline Schrumpf de l'église protestante Unie de Nantes. Elle nous conduit dans une réflexion sur nos quêtes d'identité avec un extrait de l'histoire de Moïse.
Bonjour, je suis heureuse de venir à votre rencontre ce matin. Vous qui écoutez, moi qui vous parle, nous ne savons pas grand-chose les uns des autres, de ce qui fait le quotidien de nos vies, de ce qui est la joie ou le fardeau de notre existence. Ce matin, peut-être avez-vous allumé la radio comme vous le faites chaque dimanche matin, ou peut-être l'avez-vous fait par hasard, à la recherche d'une parole, d'une musique, de quelque chose qui accroche votre attention. Une chose est certaine, ce matin, une parole d'amour, de liberté, de bienveillance nous est donnée, à chacun et chacune de nous. N'est-ce pas déjà un espoir? N'est-ce pas déjà une nouvelle inouïe, bouleversante? Dans la Bible, la prière fondatrice donnée au peuple d'Israël, et qui est encore prononcée aujourd'hui, matin et soir, c'est « Écoute, Israël ». Le Seigneur Dieu est le seul Seigneur. Une prière qui commence par « écoute ». Cela semble un peu contradictoire. En fait, c'est plein de sens. Cela veut sans doute nous dire que notre juste place d'humain devant Dieu, c'est d'abord cette place de l'écoute. Et si nous sommes invités à écouter, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Quelqu'un qui parle. Dieu qui parle. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui parle. Il parle au travers des grands personnages comme Abraham et Sarah, Isaac, Jacob ou David. Et il parle aussi par la vie de témoins anonymes qui ont vécu dans son amitié. Dieu parle en venant inspirer des prophètes comme Élie ou Jérémie. Dieu parle, enfin, par Jésus, qui est parole vivante. Mais cette réalité de Dieu qui parle aux êtres humains reste, c'est vrai, pour beaucoup d'entre nous, une question. Comment Dieu peut-il nous parler aujourd'hui? À l'ère des communications toujours plus performantes, d'Internet, des réseaux sociaux, des téléphones mobiles, des satellites, par quelles ondes vient-il nous faire entendre sa voix? Que dit-il? Et comment peut-on l'entendre? Comment surtout reconnaître que c'est sa parole et non pas notre propre voix, nos propres pensées? Peut-être, d'abord, en cherchant à faire silence en nous-mêmes. C'est assez difficile, mais je vous invite à essayer. En écoutant d'abord quelques notes de guitare paisibles et lumineuses. Parler, même si nous ne savons pas toujours comment t'écouter. Viens nous parler au plus profond de nous, dans ce lieu intime, caché en nous, ce lieu de vérité, ce lieu du cœur. Sans toi, sans ton aide, nous restons des vivants morts, pétrifiés par nos certitudes, fossilisés dans nos habitudes. Alors plonge-nous tout entier dans le courant de ta parole, afin que nous goûtions la vie que tu donnes, sa saveur, son avant-goût d'éternité. Entraîne-nous au-delà de nos propres horizons, toi qui connais intimement les chemins du royaume. Que ton souffle ravive les braises de notre foi. Que ces braises éclairent nos vies de ta confiance et que ta confiance consume nos résistances. viens nous parler. Amen.
Transformer, façonner nos vies. Que ta parole éclaire nos chemins meurtris.
Si on veut, on peut. Vous connaissez cette formule qui est souvent prononcée par des parents, par exemple, à leurs enfants, ou par un conjoint à son conjoint, ou par un professeur à ses élèves, ou par un patron à son employé. Si on veut, on peut. Si tu veux arrêter de fumer, tu peux. Tu n'as qu'à décider. Si tu veux te mettre au sport, perdre tes kilos en trop, être moins coléreux, arrêter de boire, sortir de ta dépression, tu peux. On pourrait allonger la liste des injonctions qui sont données sur un ton en général un peu péremptoire. Vous connaissez peut-être aussi cette autre expression célèbre. La volonté de faire le bien existe en moi, mais pas la capacité de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Cet aveu, c'est celui de l'apôtre Paul, qui n'est pas vraiment un débutant dans la foi. Paul constate la faillite de sa propre volonté. « Je veux, mais je ne peux pas. Je veux, mais je n'y arrive pas. » Et son aveu va même encore plus loin. « Le mal que je ne veux pas, que je rejette, je le fais. » Alors, qui a raison ? La sagesse populaire ou l'apôtre Paul ? Est-ce que ma volonté pourrait être le seul maître à bord de ma vie ? Est-ce que ma volonté suffit pour déterminer qui je suis et surtout qui je voudrais être? Quelles sont les forces à l'œuvre en moi? Comment choisir le juste chemin? Ces questions, je vous propose de les explorer à travers une histoire de la Bible, l'histoire d'un certain Moïse. Écoutons un extrait du livre de l'Exode, dans la Bible. Un jour, Moïse, devenu adulte, alla voir ses frères, les Hébreux. Il fut témoin des travaux forcés qui leur étaient imposés. Il aperçut un Égyptien en train de frapper un de ses frères Hébreux. Moïse regarda tout autour de lui et ne vit personne. Alors, il tua l'Égyptien et cacha le corps dans le sable. Il revint le lendemain et trouva deux Hébreux en train de se battre. Il demanda à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton semblable ?»« Qui t'a nommé chef pour juger nos querelles ?» répliqua l'homme. « As-tu l'intention de me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le pharaon lui-même en entendit parler et chercha à le faire mourir. Moïse s'enfuit et alla se réfugier dans le pays de Madian. Là, il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian, Jéthro, avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père. Mais des bergers arrivèrent et chassèrent les jeunes filles. Alors Moïse se leva, prit leur défense et donna à boire à leur troupeau. Elles retournèrent chez leur père qui leur demanda « Pourquoi rentrez-vous si tôt aujourd'hui ?» « Un Égyptien nous a protégés contre les bergers, » répondirent-elles. « Il a même puisé de l'eau pour donner à boire à notre troupeau. »« Où est donc cet homme ?» leur demanda le père. « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ici ? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. » Moïse accepta de s'installer chez Jéthro, qui lui donna pour épouse sa fille, Séphora. Celle-ci mit au monde un fils. Alors Moïse déclara, « Puisque je suis devenu un immigré dans un pays étranger, je lui donne le nom de Gershom, immigré là-bas. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, du fond de leur esclavage, se mirent à gémir et à crier, et leur appel au secours monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda les Israélites et se rendit compte de leur situation. Aujourd'hui, c'est cette histoire de Moïse qui nous fait voyager et qui nous invite à réfléchir ensemble. Une histoire que nous avons prise un peu en cours de route, alors faisons un petit flashback pour mieux comprendre. Moïse est donc né en Égypte, dans une famille du peuple hébreu, du peuple d'Israël. Dans un contexte où les Hébreux sont une main-d'œuvre servile pour le pouvoir, et ils subissent une violente persécution. Sa mère le cache dans un panier, au bord du fleuve, dans l'espoir que Moïse échappe à la mort. Découvert par la fille de Pharaon, celle-ci le confie à une nourrice, qui n'est autre en fait que sa propre mère. Plus tard, une fois sevré, Moïse va vivre à la cour de Pharaon. La fille de Pharaon l'adopte comme son propre fils et lui donne le nom Moïse. Vous me suivez ? Tout ça est un peu compliqué. Alors, qui est donc Moïse ? Est-ce qu'il est un fils d'esclave hébreu ou un prince d'Égypte ? Moïse, lui, en tout cas, ne sait pas très bien qui il est. Est-il un hébreu, comme le laisse penser son désir de s'approcher de ses frères, de prendre leur défense ? Ou est-il un égyptien, comme les filles de Jéthro vont l'identifier plus tard sans hésitation ? Qui est-il ? Comment peut-il se comprendre lui-même s'il ne sait pas d'où il vient, ni quelle est sa véritable identité. Dans notre récit, nous voyons un des signes de cette confusion. C'est la violence qui surgit de lui, lorsqu'il s'interpose, en croyant bien faire, entre l'Égyptien et l'esclave hébreu. Moïse tue l'Égyptien, après avoir vérifié que personne ne pouvait le voir, et cache le corps. Comme pour tenter d'effacer ce geste violent, non maîtrisé, comme pour faire glisser sous le tapis sa peur, son malaise, et cette violence inattendue et incontrôlable. À mon avis, c'est une belle illustration de ce que décrit l'apôtre Paul. Je veux faire le bien, défendre mes frères, mais je fais le mal, tuer, dissimuler. Le lendemain, ce sont précisément ses frères hébreux qui l'aide à décoder son action. « Qui es-tu » lui disent-ils. « Que nous veux-tu ? Quel droit crois-tu avoir sur nous ?» La réaction de Moïse est très parlante. Il est saisi de frayeur, il s'enfuit. Il pensait avoir agi à l'abri des regards. Voilà qu'il est découvert, en pleine lumière. Il est effrayé par la colère de Pharaon, mais peut-être aussi par ce qu'il aperçut en lui-même. Ce doute, ce questionnement sur son identité qui lui est renvoyé par les Hébreux. Qui est-il vraiment ? Alors Moïse quitte l'Égypte et va se réfugier à Madian, à l'est de la péninsule du Sinaï. Un territoire ni égyptien ni hébreu, un entre-deux, un lieu neutre pour lui. Moïse fuit loin de l'Égypte, à laquelle il sent qu'il n'appartient pas, loin de ses frères hébreux qui le rejettent pour le moment. Il se met à l'écart. Là, à Madian, Moïse va pouvoir reprendre souffle, faire retour sur lui-même et tenter de sortir de cette confusion sur son identité. Ce cheminement se déroule en deux étapes principales. Une première étape au bord du puits, puis une deuxième étape auprès de Jéthro et sa famille. Moïse s'installe à Madian et s'assoit au bord du puits. Bien sûr, c'est assez naturel après avoir traversé une zone aride et désertique que de se reposer au bord d'un puits, peut-être même dans une oasis. Ceux qui connaissent le désert connaissent aussi la joie et le soulagement lorsqu'au milieu du sable ou des rochers sans fin se dessine tout à coup une minuscule tache verte, un peu de végétation, un point d'eau, la vie. Moïse est assis au bord du puits. Il s'y est sans doute vraiment assis pour reprendre des forces. Mais dans la Bible, Ce lieu, le puits, n'est pas un lieu anodin. Le puits a une forte signification symbolique. Le puits, c'est d'abord souvent le lieu d'une rencontre qui peut être décisive, marquante, qui peut être une rencontre qui change la vie. Mais le puits, c'est aussi une image pour dire la personnalité profonde, l'intériorité d'une personne. Et donc, s'asseoir au bord du puits, c'est prendre le temps de faire ce voyage vers l'intérieur, ce voyage de la réflexion, du retour sur soi. Et enfin, le puits, ou plutôt l'eau que l'on y puise, non seulement désaltère, mais elle est l'image souvent d'une force renouvelée, d'une vie jaillissante, comme le dira Jésus plus tard. Moïse, assis au bord du puits, essaye de faire face à ce qu'il est au fond de lui-même. On ne sait pas combien de temps il reste assis au bord de ce puits. Dans nos Bibles, en français, deux mots différents sont utilisés. Je relis la phrase. Moïse alla se réfugier dans le pays de Madian. Là, il s'assit près d'un puits. Mais en fait, c'est le même verbe hébraïque qui est utilisé deux fois, exactement à la même forme. Donc il faudrait lire Moïse s'installa au pays de Madian et s'installa au bord du puits. Et c'est peut-être justement parce que Moïse s'installe, qu'il prend le temps de ce retour sur lui-même, que Moïse va être capable de rejouer une scène qui est comme en miroir avec la scène où il tue l'Égyptien, mais cette fois avec les filles de Jéthro et les bergers. Les deux scènes se répondent et diffèrent en même temps. Et ces différences témoignent du cheminement de Moïse au bord du puits. C'est ce temps passé au bord du puits qui est le tournant qui permet à Moïse une autre attitude. Au bord du puits, comme en Égypte, Moïse va prendre la défense d'autrui. Mais à Madian, Moïse ne tue personne. Il sauve les filles de Jéthro sans laisser déborder sa violence. Moïse choisit la vie plutôt que la mort. En Égypte, Moïse essaye d'exister aux yeux de ses frères en prenant leur défense. À Madian, il prend la défense de femmes étrangères, inconnues, de manière désintéressée. Bien sûr, ce récit de l'Exode n'est pas un compte-rendu psychologique et on ne sait rien de ce qu'a été ce cheminement intérieur de Moïse. Mais on en voit la trace dans ses actes, dans ses décisions. Pour autant, Moïse n'est pas encore sorti de sa confusion sur son identité et les filles de Jéthro le décrivent comme un Égyptien. Ce que Moïse ne nie pas. Mais sans doute est-il déjà sur un chemin de clarification de lui-même. Lui qui ne sait pas à quel monde il appartient, égyptien ou hébreu, il accepte l'hospitalité de Jéthro. Il s'installe auprès de lui, il se marie. Il s'établit dans un quotidien, dans un réseau relationnel. Il accueille l'invitation de Jéthro, qui est une sorte d'adoption, et qui fait écho à l'adoption de Moïse par la princesse égyptienne. Mais cette fois, c'est une adoption qui respecte la liberté de Moïse, une invitation qui lui donne le droit d'exister, paisiblement, au milieu d'une famille qui va devenir la sienne. L'histoire va même plus loin, puisque Moïse engendre un fils, et le fait de nommer son fils Gershom fait sens. Moïse entre enfin dans la reconnaissance de qui il est, un étranger là-bas. Moïse a dû faire tout ce parcours vers Madian, au bord du puits de son âme, à l'écart, pour pouvoir nommer enfin cette blessure intérieure incontournable, être étranger. Ce nom, donné à son fils, révèle que Moïse assume enfin son histoire. Cette parole témoigne de ce qu'on pourrait appeler le premier pas de sa conversion. Ce qui est très remarquable dans ce récit, c'est le fait que Dieu n'y apparaît pas, sauf dans les trois derniers versets qui font office de conclusion et de transition. Tout au long du cheminement de Moïse, rien n'est dit de la présence de Dieu. En tout cas, pas explicitement, pas directement. Pourtant, je crois que Dieu est bien présent, mais incognito, accompagnant ce cheminement intérieur de Moïse. Dieu est présent comme une source de lumière indirecte, comme dans un tableau en clair-obscur. À l'image des tableaux de Rembrandt, par exemple, où la lumière semble venir de l'extérieur de la toile. Le spectateur en voit les faits, mais non la source. Dieu est le témoin invisible, mais bien présent, dont la lumière vient donner du relief, de la vérité, de la clarté à l'expérience de Moïse. Il faudra à Moïse tout ce temps de préparation spirituelle et humaine, de préparation intérieure dans le désert de Madian, où il sera humblement le berger du troupeau de son beau-père, pour qu'enfin Moïse soit en capacité d'entendre la parole de Dieu, cette parole qui lui sera adressée au chapitre suivant. Une parole qui l'appellera à devenir le berger de son peuple. Cette expérience de Moïse fait écho à bon nombre de nos histoires humaines, à bien des cheminements laborieux de nos existences. Nos difficultés à comprendre ce que nous sommes en profondeur, à nous libérer de tout ce qui est projeté sur nous par nos milieux de vie, nos familles, nos parents, nos enfants, nos proches, nos professeurs, notre milieu professionnel. Désir projeté de tel parent sur son enfant pour dépasser une ambition non atteinte. Toi, tu seras avocat, ou professeur, ou médecin, ou écrivain, ou que sais-je. Et non, toi, tu seras toi. Ou déception de voir sa progéniture qui ne semble pas à la hauteur. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Tu n'arriveras à rien. Tu es bon à rien. Nous vivons parfois, inconsciemment, la vie d'un autre nous-mêmes, un autre rêvé, fantasmé, ou critiquer et dévaloriser. Nous agissons et nous nous construisons en fonction des attentes des autres sur nous. Comment construire une maison sur des fondations chancelantes, sur un terrain trop fragile? Comment construire notre existence sur une identité mal définie, confuse, sans fondement? Cela peut être la source d'une grande souffrance ou s'exprimer par un sourd malaise intérieur, difficile à cerner. Cela vient perturber notre rapport à nous-mêmes et notre relation aux autres. Cela nous fait vivre des relations souvent mal ajustées, tordues, tourmentées. Si je ne sais pas qui je suis, comment puis-je entrer en relation paisiblement avec autrui? Nos réactions sont alors l'incompréhension ou la violence qui nous submerge comme Moïse, ou encore le repli ou la peur qui nous écrase et nous asphyxie à petit feu. La bonne nouvelle que nous pouvons recevoir ce matin, c'est que Dieu est présent pour nous, auprès de nous, même si nous ne percevons pas sa présence, comme dans ce chapitre de l'Exode. Dieu est souvent présent dans nos existences de manière discrète, sans s'imposer, avant que nous le réalisions, avant qu'il révèle sa présence. Mais il nous donne sa lumière. Il nous invite, comme Moïse, à faire un chemin à l'écart, vers le puits. Là, nous pouvons nous asseoir, nous installer et prendre le temps de faire le constat de nos faillites, de nos fragilités, des blessures enfouies et de ces forces tapies dans les recoins sombres de nos cœurs, pour y faire face. Là, au bord du puits, Moïse et nous, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là auprès de nous. Dans un de ses écrits spirituels, Thomas Merton, qui est moine aux États-Unis entre 1941 et 1968, l'année de sa mort, Thomas Merton évoque, avec d'autres mots, cette même révélation de soi par un processus de dépouillement et de mise au jour. Il écrit « Les choses qui me recouvrent sont sans substance. Je suis vide et mon échafaudage de plaisir et d'ambition ne repose sur rien. Et lorsqu'ils auront disparu, il ne restera de moi que ma nudité, mon vide et mon néant. » Pour terminer cette méditation, je vous laisse avec quelques questions plus personnelles. À quelle réalité profonde de notre vie, peut-être à quel échec de notre volonté, à quelle confusion de notre identité, le Seigneur nous invite-t-il à faire face? Comment pouvons-nous faire un pas de côté pour nous asseoir, nous aussi, au bord du puits de notre cœur, pour y vivre une rencontre avec nous-mêmes, en vérité et avec Dieu? Dieu, viens nous parler. Même si nous ne savons pas toujours comment t'écouter, viens nous parler au plus profond de nous, dans ce lieu intime, caché en nous, ce lieu de vérité, ce lieu du cœur. Sans toi, sans ton aide, nous restons des vivants morts, pétrifiés par nos certitudes et nos habitudes. Plonge-nous dans le courant de ta parole, afin que nous goûtions la vie que tu donnes, sa saveur, son avant-goût d'éternité. Viens nous parler. Amen.
Nous étions en compagnie de Caroline Schrumpf, pasteur de l'Église protestante unie à Nantes. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Alain Joubert pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantaupluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bonne journée à vous sur France Culture.